VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, midi à Kinshasa, 11h à Abidjan. Une fillette d'environ 10 ans a été tuée dans une tentative d'attentat suicide dans le nord-est du Nigeria en activant sa ceinture explosive à l'approche des forces de sécurité, a rapporté aujourd'hui un membre des milices civiles. L'attaque qui s'est déroulée lundi à la mi-journée dans la commune de Banki, dans l'état du Borno, à la frontière avec le Cameroun, n'a pas fait d'autres victimes. Un autre attentat a par ailleurs fait un mort aujourd'hui dans une mosquée de Dalori, dans la périphérie de Maïdougouri, pendant la première prière du matin. En République démocratique du Congo, toujours pas de sortie de crise. La conférence épiscopale a parrainé un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un accord sur la composition d'un futur gouvernement qui se fait toujours attendre. Et puis, le leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, est parti à Bruxelles pour des soins médicaux. Madame Christine Botefa-Boko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition, propose maintenant des états généraux de la nation.
Pour sortir de cette crise, nous comptons organiser des états généraux congolais qui seront composés d'une constituante et d'un gouvernement constitutionnel de transition qui pourra exercer pendant 2 ans jusqu'aux futures élections. Parce que là, franchement, le pays est dans un état chaotique et le plan B de la CENCO, c'est d'envisager une mise sous tutelle de la RDC. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Ça fait 56 ans que le Congo est indépendant. Nous n'allons pas retourner en arrière, nous n'allons pas régresser en mettant le pays sous tutelle.
Madame Christine Botefa-Boko, vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition. En Côte d'Ivoire, 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent aujourd'hui devant la cour d'assises d'Abidjan à l'occasion du procès dit du Novotel. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane France Diripel, et 3 autres personnes avaient été enlevées par un commando militaire le 4 avril 2011 dans Abidjan en pleine crise post-électorale. 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogboblé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Le Maroc a salué son retour au sein de l'Union africaine comme une décision historique et une victoire diplomatique. Mais la question se pose maintenant de savoir comment Rabat va gérer sa cohabitation avec le Front Polisario au sein de l'Organisation continentale. Le royaume avait claqué la porte de l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, la RSD, proclamée par les indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle et considère comme sien. Ibrahima Khan, spécialiste de l'Union africaine, estime que le Maroc n'aurait jamais dû sortir de l'organisation panafricaine.
Le Maroc a quitté l'OUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Ibrahima Khan, joint à Dakar. Le procureur sud-africain Gerry Nel célèbre pour avoir obtenu la condamnation du champion paralympique Oscar Pistorius pour le meurtre de sa petite amie à démissionner de ses fonctions. Magistrat depuis 35 ans, M. Nel a annoncé lundi sa décision avec effet immédiat dans un courrier adressé au parquet général national NPA. En avril 2014, le juge sud-africain avait malmené Oscar Pistorius pendant 5 jours en le pressant de reconnaître avoir délibérément tué sa compagne Riva Steenkamp à l'aube de la Saint-Valentin 2013. Ici aux États-Unis, Donald Trump va révéler ce soir le nom du magistrat conservateur qu'il entend nommer au 9e siège pour l'instant vacant de la Cour suprême des États-Unis, un choix qui ouvrira probablement un front avec l'opposition démocrate. La nomination va intervenir à 20h de Washington en direct de la Maison-Blanche, a tweeté le nouveau président. Cela fait presque un an que la Cour suprême américaine n'a que 8 juges au lieu de 9, avec 4 magistrats conservateurs et 4 progressistes. La plus haute instance judiciaire américaine fonctionne, mais est menacée de blocage. Le Parlement israélien a reporté au début de la semaine prochaine le vote d'une loi controversée qui permettra à Israël de s'approprier des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée, indique la Knesset sur son site. Cette législation alarme les défenseurs de la cause palestinienne et la communauté internationale. L'Organisation de libération de la Palestine y a vu une déclaration de guerre. Et puis le tir d'un missile de moyenne portée par Téhéran ne constitue pas une violation de la résolution de l'ONU sur le nucléaire iranien, a estimé aujourd'hui la diplomatie russe, dénonçant la réunion en urgence du Conseil de sécurité comme une tentative d'envenimer la situation. La résolution 2231 du Conseil de sécurité ne comporte pas d'interdiction pour l'Iran de mener de telles actions, a déclaré à l'agence Interfax le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov. Le Conseil de sécurité doit se réunir en urgence aujourd'hui pour discuter de ce tir de missile justement effectué par l'Iran. Ce sont les États-Unis qui ont demandé ces consultations d'urgence après que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à agir. Les discussions sur l'Iran se tiendront après une réunion sur la Syrie prévue à 15h GMT selon des diplomates.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Colombie, les FARC achèvent aujourd'hui leur dernière marche, non donnée par le gouvernement, à l'ultime étape du transfert des guérilleros vers les zones où, d'ici 6 mois, ils devront avoir déposé leurs armes. Après plus de 50 ans de guerre, le regroupement des troupes de la plus ancienne et plus puissante guérilla colombienne était à l'origine prévue le 31 décembre, selon les termes de l'accord de paix signé en novembre, mais la date a été repoussée d'un mois en raison de problèmes logistiques. Le Parlement britannique se penche à partir d'aujourd'hui sur un projet de loi visant à autoriser le gouvernement à lancer les négociations de sortie de l'Union européenne qui devrait, sauf énorme surprise, être adoptée, intitulé « Projet de loi de l'Union européenne notification de retrait ». Le document très bref est publié jeudi, demande aux parlementaires de conférer à la première ministre le pouvoir de notifier, selon l'article 50 du traité de l'Union européenne, l'intention du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne. La première ministre conservatrice Theresa May s'est engagée à lancer le divorce avec l'Union européenne avant fin mars et compte bien tenir son calendrier suite au référendum du 23 juin ayant décidé le Brexit.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Voilà, la destination Gabon est synonyme de Coupe d'Afrique des Nations de football. La première demi-finale oppose demain mercredi à Libreville le Burkina Faso à l'Égypte, les Pharaons. Un duel a priori déséquilibré entre les étalons de finalistes de l'édition 2013 et les Pharaons, septuple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville, où l'on retrouve l'envoyé spécial de VOA Afrique, Timothée Donangmaï.
Les étalons se sont entraînés lundi à huis clos au stade de l'INGS de Libreville. Une décision du coach Paolo Duarte qui veut assurer à ses poulains une concentration maximale avant la demi-finale contre l'Égypte. Dimanche déjà, consigne avait été donnée aux fans burkinabés de ne pas se rendre à l'entraînement. Pour les étalons, la mission au Gabon est loin d'être accomplie et il faut mobiliser toutes les ressources mentales et physiques pour y parvenir. L'Égypte est une adversaire de taille en demi-finale et ils en sont conscients. Mais les Burkinabés n'ont pas oublié leur élimination par les Pharaons en 1998 sur leur propre pelouse à ce même stade de la compétition. Ils comptent donc bien prendre leur revanche cette fois-ci, nous a dit le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Quelques atouts des étalons ici au Gabon. Ils ont accumulé un précieux capital de sympathie auprès des Gabonais pour avoir été la première équipe nationale à arriver sur place pour la CAN 2017. Par ailleurs, leur coach Paolo Duarte a gardé de bonnes relations ici et a entraîné les Panthères gabonaises pendant 2 ans. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Fin de ce journal, dans le prochain dans 50 minutes.
Sur VOA Afrique.